Il a même pas 5 ans quand on lui annonce que. aussi à contrôler ses émotions, ce qui naît dans une société qui est gouvernée par la loi. Et la loi se méfie énormément des émotions qu'elle assimile au chaos. Et donc, c'est dangereux parce que l'émotion, ça va enchaîner la passion, et la passion peut être destructrice, et la destruction, c'est pas bien pour la loi, donc forcément, on s'en méfie. Et donc, toute son enfance, on va le primer sur ses émotions, on va lui dire tu pleures, ok, c'est bien, mais attention, l'excès de larmes, c'est un excès de sel dans la soupe, et du coup, ça devient mangeable. Donc, il faut pas que tu pleures trop, puis il faut pas que tu ris trop, et puis pourtant, c'est ça, on l'oblige à retenir ses émotions, et pourtant, il en a, mais il n'a pas trop le droit de les montrer. Et quand il va commencer à les montrer et à se lâcher, ça va même presque l'effrayer.
Particulier autour de ce prince héritier qui centralise finalement Gracias. penseur, c'est quelqu'un qui a tout entendu, qui écoute, qui est capable aussi bien de lui dire les pensées que même en développant plus avancement de d'imposer des pensées à d'autres personnes. Et du coup, c'est des dons et des pouvoirs qui se manifestent de manière un peu chaotique au début, enfin, un peu confiant, qui ne sait pas maîtriser ses pensées. Il a un mal de tête constant, il a l'impression d'avoir des émotions et des pensées qui ne lui appartiennent pas vraiment.
Dans un roman de science-fiction, il serait issu de manipulation génétique. Parce que, et là, il est issu simplement de croisements qui sont faits de façon naturelle, mais avec quand même une arrière-pensée pour essayer d'obtenir un enfant issu de plusieurs races qui, en théorie, ne sont pas compatibles entre elles. Et donc, il a des pouvoirs et il a, qui sont assez intenses et il a une mission à remplir. Il a été. Il y a une prophétie dans le livre qui en fait pour moi est un mode d'emploi codé, qui expliquait en fait ce qu'il fallait faire pour qu'il puisse arriver. Et après qui lui explique à lui ce qu'il est supposé faire. Et cet enfant, en fait, il est sa plus grande particularité, c'est lié à ce qui est particulier dans mon monde. C'est-à-dire dans mon monde, il y a la réincarnation. Les gens sont conscients que le rapport à la mort n'est pas du tout le même que celui que nous pouvons avoir. La mort n'est pas une fin, ça va être la fin de la personnalité, de l'individu dans lequel l'âme est incarnée, mais les âmes reviennent en général. Et elles ne sont pas forcément super heureuses que ça leur arrive, puisqu'à la base, elles sont les, pour leur imposer le cycle des incarnations suite à un conflit entre les dieux et elles, c'est-à-dire entre la divergence, les dieux et la convergence des âmes. Les dieux ont tellement peur que les âmes qui fusionnaient, qui formaient des agrégats, deviennent un jour assez puissants pour les absorber eux-mêmes. Tout ça, ça se passe au niveau énergique des énergies. Et du coup, ils ont fracassé les agrégats, ils ont cloisonné l'univers pour qu'il n'y ait jamais trop d'âmes pour les mettre en danger. Et surtout, ils ont fabriqué les premières geôles de chair, les corps mortels, pour incarner ces âmes. Comme ça, ils ne peuvent plus faire d'agrégats. Et à partir de là, lui, il est. Enfin, dans les limbes, où vont les âmes après la mort de leur geôle de chair, où elles se régénèrent pour oublier et puis reprendre des forces avant d'être réincarnées. Il y a des âmes qui meurent, il y a des âmes qui quand même réussissent à fusionner entre elles. Parce que tout ça, c'est de l'énergie. Donc, au niveau énergétique, il y a plein de choses possibles. Et puis, il y a plusieurs âmes qui, de façon récurrente, s'incarnaient dans des mages qui sont liés à l'équilibre et non pas à la loi au terreau. Et à un moment donné, la loi et le terreau, on avait tellement marre que l'équilibre joue les arbitres et les empêche de s'éradiquer l'un l'autre, qu'ils se sont associés pour éliminer l'équilibre. Puis ensuite, ils reprendront les hostilités, chacun étant persuadé d'être capable de l'emporter. Mais pour l'instant, ils sont encore alliés, ils pensent avoir éliminé l'équilibre. Sauf que les mages qui sont les maîtres mages qui sont décédés, ils ont fait en sorte de les emprisonner dans les larmes pour qu'ils ne puissent pas revenir. Elles vont quand même réussir à fusionner entre elles et à s'échapper sous plusieurs formes. Ces âmes sont incarnées dans cet enfant. Et en plus, par la suite, ils vont récupérer cinq consciences qui sont en lui et qui le hantent. Ce qui fait qu'on a un petit moucho qui, par moment, se met à parler comme un adulte qui a un savoir ancestral et ça fait ça crée des décalages. Et il n'est pas toujours maître de ses émotions, puisque la nuit, par exemple, quand il dort, il revit en rêve les martyrs de ces mages qui ont été finalement un peu comme des martyrs de l'Antiquité. Et du coup, ses émotions, elles sont projetées sur lui parce qu'il a des pouvoirs télépathiques assez importants. Et du coup, elles sont récupérées à la fois par les animaux de la forêt sauvage dans lesquels il grandit, par les esprits élémentaires, par les fées, et tout ça, ça déclenche des tempêtes. Le titre, source des tempêtes. Et ces tempêtes sont très violentes. Et une des choses qu'il doit apprendre, c'est à contrôler tout ça, à arrêter de faire tous les cauchemars. C'est ça qui m'amuse beaucoup. Je lis souvent justement dans les chroniques que ça va être un gentil, c'est le gamin qui va prendre sa confiance tout de suite et tout. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est parce qu'il est télépathe qu'il sait tout de suite ce que pensent les gens qu'il peut accorder sa confiance à ceux qui perçoivent comme n'étant pas un danger pour lui.
Parce que l'impression de mettre le contraste avec ça, c'est plutôt un personnage assez sombre, assez pessimiste. Par rapport à lui, on a l'impression d'avoir en face la langue qui
est. Seredan, il est complètement c'est un enfant plus ou moins sauvage, puisqu'il grandit dans une forêt sauvage et en dehors de toute société. Pour lui, tout ce qui est les émotions, le recrutement de la forêt, tout est naturel. Il n'y a pas la pression sociale, il n'y a pas les tabous, il n'y a pas. Il y a rien qui choque au départ. Ce qui va choquer, ça va être par exemple la première fois qu'il va voir des arbres dans des arbres pauvres, dans des cassons bois. Il ne comprend pas pourquoi on fait pousser des arbres dans les cadavres de leurs frères. Il est tellement dans la nature, il est tellement dans la spontanéité. Et puis voilà, c'est tout ça. Donc il a sa peur de ses émotions. Il est très spontané. Et en même temps, le fait de tuer, pour lui, c'est pas un problème. Il assume complètement le fait qu'il a cette faculté, et puis s'il a un danger, il va pas hésiter à tuer. Alors que Cerdric, qui lui ne veut pas détruire, et qui n'est d'ailleurs pas vindicatif, lui, il n'a jamais tué personne. Son frère, il a déjà eu enfant, il a déjà tué les gens, et pourtant, ils sont gentils. Ah oui, il ne le fait pas par méchanceté de tuer, mais ça m'amuse beaucoup en fait le décalage des perceptions par les gens de notre culture.
Et je vais dire, alors, on a parlé du statut de suivant et de suivante, puisque ce sont essentiellement des suivants qu'on suit dans les week-ends. Il y a, on a dit ça, c'est ce qui se décide, alors que ce sont encore des mots donnés. Ça donne parce qu'il faut quand même préciser que ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que on a sa vie descendre de l'île qui s'arrête. On ne connaîtra pas sa famille, on ne connaîtra pas le milieu dans lequel on est ici,
c'est ça.
Et on se retrouve dans cette situation où on nous impose un destin.
Voilà. Tout ça est exactement sauf que, avec cette idée prologue, on assiste à la fin du coutume à l'échelle du coutume. Donc, c'est comment. Cette tradition des suivants, à force d'être un peu malmenée, va vivre ces derniers jours. Donc, oui, déjà là-dessus.
On assiste à la fin de cette tradition, puisque déjà plus il y a raté.
Voilà, il y a eu des ratés, théoriquement, c'est un seul suivant par prince ou par princesse. Déjà, d'emblée, ça commence mal, puisqu'il y a. Qui peut trouver une suivante pour sa fille. Il a un petit peu la flemme, il en trouve une qui n'est pas du bon jour, donc il en emmène quand même, puis après il en emmène une autre, donc finalement la princesse se retrouve avec deux. Déjà que ce lien est un peu compliqué quand on est à deux, quand en plus on se retrouve à trois, ça devient vraiment difficile. D'autant plus que le suivant, c'est un peu une pièce de change, c'est-à-dire dans les règles de succession, le suivant a quasiment le place, mais est-ce qu'on peut lui donner notre place, est-ce qu'il faut continuer, est-ce que vraiment elle est voilà, intéressante. Oui, et après, voilà.
Mais oui, on a avec parmi ces quatre personnages qu'on rencontre dès leur trans, là encore, certains qui sont le fruit du destin qu'on leur impose finalement, parce qu'on a un métier, on a un enfant qui est avec Rimas, et qu'il y en a deux autres personnages. C'est que les gens dans la forêt, les gens dans la créature, les visions de puissance, etc. Il y a populations qui sont pas très chaudes pour se faire passer leur territoire, on va dire. Et qui, du coup, ont essayé de s'allier et d'appeler des héros qui vont rassembler les peuples pour les aider. Et dans le cas, on s'est rassemblé des peuples du Maroc, issus des royaumes qui devaient normalement s'allier pour combattre la forêt. Ils vont rallier certains peuples, parfois évidemment plus touchés par la spiritualité ou par le contexte.
On va se rendre compte que finalement, cette destination d'Éden, qui figure dans la narration, c'est pas tout à fait ça quand même, et que ce système royaume, il a aussi ses problèmes internes.
Oui, c'est, en fait, c'est pas une grande, belle grande famille, le système royaume, avec tous les peuples qui sont alliés, qui sont alliés, etc. Il y a aussi des problèmes politiques internes, très violents parfois, entre les elfes, par exemple, qui sont toujours convaincus d'être une sorte de sagesse ancestrale, alors qu'ils sont très très concernés, mais qui ont perdu énormément. Entre les sylphides qui sont des insectes un peu fanatiques qui commencent à tuer tout ce qui s'approche un peu trop de la forêt, les loups-garous qui ont qui sont des animaux en fait, qui ont plutôt un fonctionnement social qui part du principe que soit tu appartiens à la botte et tu fais partie d'une unité et tu es un, soit tu ne fais pas partie et le reste hein, c'est tout en dossier. C'est un peu le travail initial des héros, c'est de rassembler ces peuples-là. Mais les héros ne s'entendent déjà pas très très bien entre eux. Ils ont tous certainement un passif qui fait qu'ils ne s'entendent pas très bien les uns avec les autres. En plus de ça, ils ne s'entendent pas forcément bien avec les peuples auxquels ils ont été affectés. Bon, on va voir des héros qui n'ont connu que la vie. Les héros qui ont connu de barbares chamanes, c'est pas très simple. Ou un barde à moitié volage qui a un surnom. Un peu volage, un peu libertaire, gérer une bande d'un ordre de chevaliers ultra conservateur, ultra orienté vers le bien, le bien, etc. Et la justice, ça peut donner quelques heures, on va dire.
Il arrive enfin en pleine tempête. Son père, qu'il n'a jamais vu, n'imagine pas un seul instant que ça puisse être son fils. Donc il n'accueille pas du tout comme l'autre avait fantasmé. En plus, il avait vraiment imaginé que son père était aussi seul que lui, aussi malheureux, aussi en recherche d'amour. Et il pensait que dès qu'ils allaient se trouver, ça allait être sur le pari combler le vide de l'autre et que ce que son père allait venir avec lui, qu'il vivrait auprès de lui, qu'il verrait ses petits-enfants et que dans le visage des petits-enfants, il verrait celui de son fils qu'il n'a pas connu, béné, etc. Et puis il arrive et se rend compte qu'il n'y avait la vie au départ très 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 mal. Et surtout qu'une fois qu'il s'est présenté, qu'il s'est fait reconnaître, ben, son père l'accueille toujours pas en lui tombant dans les bras. Et il lui parle que de l'autre, je suis inquiet, il est dehors, il y a la tempête, moi j'ai du souci pour lui. Et puis, enfin, il est conscient de la prophétie, le père, hein, donc, puisqu'il a tout fait pour avoir cet enfant. Et donc il dit prend compte tout ce qu'il a géré, le fardeau de son destin, etc. Et puis ben, l'autre, ça me saoule. Si bien que. Son manteau dans la tempête avec l'épée à la main et tellement bouffé par ses émotions, cette rage, cette jalousie, cette haine, cette déception, enfin, toutes ces émotions négatives qui sont en lui et il arrive à rêver de tomber sur son demi-frère et de lui gorger, de le tuer et puis ça fera les pieds à son père. Enfin, là, c'est vraiment dans la révolte. En même temps, il n'a que 16 ans. Hein. Donc, 16 ans, c'est l'âge adulte. C'est l'âge auquel on peut être adulte. Ça reste encore jeune, émotionnellement parlant.
De
par son parcours, il est quand même assez immature. Et donc, sur ces points-là. Et puis, dans cette tempête, il aperçoit une lumière au loin, une lumière bleue, et il va marcher jusque-là. Et puis, ce qu'il voit, ben, c'est tellement. Parce qu'il a toujours été attiré par la magie, et il a toujours eu cette frustration d'être réfractaire à la magie. Donc, il ne peut pas lire. Pratiquer, il ne peut pas être affecté par elle. Et pourtant, il a toujours été émerveillé par ces manifestations, au point de rêver de posséder un artefact magique. Lorsqu'il vit une boule de neige, on dirait que la magie à l'intérieur, rien pour admirer toujours sa beauté, ses couleurs, ses lumières, tout ça. Et quand il voit donc découvre son frère qui est dans une bulle de lumière bleue, au milieu des éléments déchaînés, ben, c'est un choc à la fois d'émotion, d'esthétisme. C'est cet enfant, en plus, il est pas humain, donc, il a un certain charme. Et donc, voilà, toute la colère retombe, surtout que quand ça va prendre conscience de la présence de son frère, il l'accueille tout de suite avec amour, avec affection, avec les bras ouverts. Et ça désarme complètement toutes ces émotions négatives et elles sont brutalement remplacées par cet émerveillement, par une espèce d'incrédulité, genre c'est un miracle, c'est un cadeau de Noël, on va appeler ça comme ça, tout est en train de basculer, tout est en train de s'inverser et de la même façon qu'il était très intensément dans le négatif, il bascule très intensément dans l'amour fraternel. Ça, le frère aîné et le rôle de protecteur, finalement, il va aimer son frère comme si c'était son enfant, en fait. Il y a l'émerveillement d'avoir un frère, mais en même temps, il y a l'émerveillement d'être le gardien de toute cette magie, quelque part. Lui, il ne peut pas la pratiquer, mais en plus, son frère est tellement puissant qu'il arrive quand même à l'affecter. Donc ça aussi, c'est nouveau pour lui et c'est bouleversant. De sa mission, de sa mère,
aussi. Et donc, oui, elles sont différentes. Par contre, l'autre, en fait, c'est qu'il n'a absolument rien en affaire des devoirs qui sont les siens, de leur entraînement. Et par contre, c'est ce qui m'entraîne le plus sûr de ce qui va se passer. Encore une fois, le tome 1, on a vraiment les nœuds et les prémices de ce que ça sera. Du coup, si je ne pas trop en espérer la suite, c'est je pense qu'il y a un peu plus. D'ailleurs, on a tout ça.
Cette histoire. Et puis, je vous ai déjà fait parler de la dernière fois. On va peut-être qui s'opposent.